Première partie, chapitre 1 à 3. État moral d'Israël et conseil de Dieu à son égard. Chapitre 1. Dieu rejette Israël et reçoit les nations. Verset 1. La parole de l'Éternel qui vint à Osée, fils de Béhéri, au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Dès le premier verset, nous nous heurtons à une difficulté. Comment se fait-il qu'Osée, prophète d'Éphraïm, au lieu d'énumérer la série des rois d'Israël sous lesquels il a prophétisé, ne mentionne que Jéroboam, le premier de ses rois, passe sous silence ses six successeurs et marque la durée de sa prophétie par les rois de Juda? À cette énigme, l'histoire des rois d'Israël fournit une solution, confirmée par le contenu de notre premier chapitre. Jéhu, exécuteur des jugements de Dieu contre les dix tribus, avait exterminé Joram, roi d'Israël, et les 70 fils de l'impie Akab, mais, plein d'un zèle charnel, il avait outrepassé les ordres de Dieu en exerçant la vengeance sur Akazia, roi de Juda, et ses 42 frères. L'Éternel reconnut l'obéissance de Jéhu dans la mesure où elle s'était exercée à son service et lui dit « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab selon tout ce qui était dans mon cœur, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. » 2 Rois 10, verset 30 et 15, verset 12. Ce fut en effet ce qui arriva. Sur les instances de Joakaz, son père, première génération de Jéhu, Joas, la seconde génération, avait été suscité comme sauveur à Israël. 2 Rois 13, verset 5. Jéroboam II, troisième génération, tout mauvais roi qu'il fut, avait été également honoré au titre de sauveur du peuple. 2 Rois 14, verset 27. Dès lors, cependant, Israël était jugé, mais il manquait encore la quatrième génération de Jéhu pour accomplir la promesse faite à ce dernier par l'Éternel. À la mort de Jéroboam, les dix tribus traversèrent une période d'interrègne dont la prophétie d'Osée porte les traces. Mais ce que l'Éternel avait promis devait nécessairement avoir lieu. Au bout de 11 ans d'interrègne, Zacharie, quatrième descendant de Jéhu, s'assit sur le trône d'Israël, mais ne régna que 6 mois, et mourut de mort violente. 2 Rois 15, versets 8 à 12. Ainsi s'accomplissait à la fois la parole de l'Éternel à Jéhu et le jugement définitif sur les 10 tribus. Déjà du temps de Jéroboam II, ce jugement était consommé dans les décrets de Dieu. Les 5 souverains qui se succédèrent sur le trône depuis Zacharie jusqu'à la transportation des 10 tribus ne comptent pas pour le prophète, malgré le long règne de 2 d'entre eux. Osée prophétise sur Israël, alors que déjà le sort du peuple est invariablement fixé par l'Éternel. Celui-ci tient sa promesse à Jéhu, mais juge définitivement la maison d'Israël, à commencer par Jéhu. Verset 4. Pour un temps, Juda, sous quelques rois fidèles, marche encore avec son Dieu et les vrais saints, quoique de fait, la ruine des 2 tribus soit déjà complète. Chapitre 12, verset 1. Aussi, comme nous le verrons chaque fois que Juda est mentionné, c'est pour montrer que, si son jugement est retardé, il n'est pas éloigné et atteindra sûrement la maison de David. Voilà donc ce qui nous semble expliquer pourquoi Osée, prophète d'Éphraïm, nous est présenté comme prédisant sous le règne des rois de Juda et passe sous silence tous les rois d'Israël, sauf Jéroboam. Ce dernier était encore un sauveur. Après lui, tout n'est plus que désordre, meurtre et anarchie. Versets 2 à 5. En un temps où la parole de Dieu n'a plus de puissance sur le cœur du peuple pour le convaincre et le ramener, l'Éternel l'accompagne de signes visibles, symboliques, propres à atteindre la conscience et au sens desquels personne ne peut se soustraire. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution. car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Il faut que le prophète de l'Éternel, l'homme qui représente Dieu lui-même devant le peuple, contracte une alliance déshonorante. Israël ne comprendra-t-il pas que la prostitution est sa condition actuelle? Il avait abandonné l'Éternel, trahi ses engagements avec son mari. Et cependant, les relations d'une alliance légitime subsistaient encore. Y avait-il rien de plus honteux pour le prophète? Mais combien plus pour l'Éternel lui-même? En outre, non seulement le prophète, ou Dieu, était déshonoré, mais les enfants issus de cette union ne pouvaient s'appeler que des enfants de prostitution. Jamais la souillure ne peut être améliorée, même alliée avec la pureté la plus parfaite. Si la sainteté du prophète, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, n'en était nullement altérée, l'impureté de son épouse était décuplée par le fait qu'elle n'avait eu aucun égard à cette sainteté. Mais il était désormais impossible que Dieu n'en prît pas connaissance, si, le fait une fois constaté, il ne voulait pas renier sa sainteté. Le jugement devenait donc une nécessité, à moins que Dieu n'abandonnât son caractère. Cette vérité est de tous les temps. Après Israël, l'Église, en tant qu'épouse responsable de Christ, a suivi le même chemin, s'est prostituée et tombera sous le même jugement, bien plus terrible toutefois que celui d'Israël, puisqu'il sera proportionné aux grâces qu'elle a reçues. Israël a manqué sous la loi. L'Église responsable a manqué sous la grâce. Mais Israël, après sa défection sous l'économie de la loi, retrouvera, sous la nouvelle alliance, la grâce qu'il n'avait jamais connue. L'Église ne la retrouvera pas, car, après la grâce, manifestation suprême du caractère de Dieu, il ne lui reste plus de ressources, ni d'autre issue que le jugement. L'Église est en voie de devenir la grande prostituée, la mère de toutes les abominations de la terre, qui aura pour fin cette sentence. Elle est tombée, Babylone la grande. Apocalypse 17, versets 1 et 5, et 18, verset 2. Osée prend donc pour femme Gomère, dont la conduite est l'image de celle du peuple. Elle est fille de Diblaïm, ce qui signifie « double embrassement ». Ce nom semble être une allusion. Dès son origine, Israël avait été soumis à deux influences contraires, celle de la chair et celle de la sainteté de Dieu. Un mélange, une chose ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise, pouvait-il en être le résultat? Impossible. La corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Le premier fils de Gomère est Jisréel. Appelle, dit l'Éternel, son nom Jisréel, car encore un peu de temps et je visiterai le sang de Jisréel sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Et il arrivera, en ce jour-là, que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Verset 4. Ce nom rappelle le meurtre commis par Jéhu sur Akazia, roi de Juda, et ses 42 frères, de Rois 9 et 10. Dieu avait approuvé Jéhu en ce qu'il avait fait à la maison d'Akab, et lui en avait même accordé la récompense. Ce n'est qu'environ 80 ans après que nous apprenons ce que Dieu pensait du meurtre des fils de Juda. Ce principe est très instructif quant aux voies de Dieu. En tant qu'il sert à l'accomplissement des conseils de Dieu, l'homme peut être approuvé de lui, quels que soient les motifs secrets de son cœur, si toutefois il ne s'oppose pas à cet accomplissement. Mais les motifs secrets qui l'ont fait agir, quand il semblait ne travailler que pour Dieu, seront un jour mis en lumière, et la violence ou l'hypocrisie, se cachant sous le manteau de l'obéissance, n'échapperont pas plus dans le jour du jugement qu'il n'échappe aujourd'hui à son regard. Il arrive un temps où la patience de Dieu prend fin. Les motifs du cœur de Jéhu, qu'il savait si bien cacher aux yeux du fidèle Jonadab, en les parant du nom de « zèle pour l'Éternel », de Rois 10, versets 15 et 16, sont maintenant mis à découvert. Les meilleurs pouvaient s'y tromper, Mais on ne trompe pas Dieu. Des années s'écoulent, le jour et l'heure de la rétribution arrivent, lentement peut-être, mais d'un pas certain et inévitable. N'en avait-il pas été de même dans l'affaire de Saül et des Gabaonites? Il semblait, après tant d'années, que Dieu eût oublié ce qu'il n'avait pas même enregistré. La famine de 3 ans vint détromper Israël. 2 Samuel 21. Le nom de Jisréel est synonyme ici de brisement. L'arc d'Israël, sa puissance, sera brisé dans la vallée de Jisréel. Avec la maison de Jéhu, le royaume des 10 tribus a cessé virtuellement et Dieu ne tient plus compte de ce qui reste. Mais la royauté n'était pas seule en question. Dans quel état se trouvait la nation elle-même sous les successeurs de Jéhu? Gomer enfante une fille et Dieu dit, appelle son nom Lo-Rukama. Elle n'a pas obtenu miséricorde. Car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël pour leur pardonner encore. Verset 6. La coupe était comble. À l'égard d'Israël, il n'y avait plus lieu à repentance de la part de l'Éternel. Cependant, il voulait encore faire miséricorde à la maison de Juda et les sauver, ce qu'il avait fait en vain par 2 fois, comme nous l'avons vu, à l'égard de la maison d'Israël. Car la sentence définitive n'était pas encore prononcée sur la race de David. Gomer a un second fils. Dieu dit, appelle son nom Lo-Ami, pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous. Verset 9. Ainsi, tout lien avec Dieu est rompu. Israël est rejeté, et remarquons que Dieu ne fait plus une exception en faveur de Juda, comme il l'a faite pour Lo-Rukama. La sentence s'étend ici au-delà d'Éphraïm. Dans le moment même où elle est prononcée, les relations vitales de tout le peuple sont déjà rompues. Elles feront bientôt place aux simples voies de la providence de Dieu, comme nous les voyons au livre d'Esther, jusqu'au jour du rétablissement d'Israël. Avec cette sentence, « Vous n'êtes pas mon peuple », il semble que tout soit définitivement terminé. Sans doute, si Dieu n'était pas Dieu, et si sa gloire voulait être fondée sur ses jugements au lieu d'être établie sur sa grâce. Dieu est un juge, et les pécheurs sont affreusement coupables de n'en pas tenir compte, mais il est aussi le Dieu des promesses, et ses promesses sont sans repentance. On le voit bien ici, au verset 10, à l'égard d'Israël. Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se peut mesurer ni nombrer. Le prophète, chose remarquable, ne remonte pas aux promesses faites à Jacob, Israël, à Bethel. Ta semence sera comme la poussière de la terre. Genèse 28, verset 14. Mais à celle qu'il fit à Abraham, à la suite du sacrifice d'Isaac, je multiplierai abondamment ta semence, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Genèse 22, verset 17. Promesse que Jacob lui-même rappelle à l'Éternel avant de passer le gué de Jabbok. Tu as dit, certes, je te ferai du bien, et je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer, qui ne se peut nombrer à cause de son abondance. Genèse 32, verset 12. C'est en vertu du sacrifice de Christ que la grâce de Dieu triomphera à la fin, et sur ce sacrifice que l'Éternel établit ses promesses immuables. La loi, venu si longtemps après, ne peut les annuler. Le Dieu des promesses ne peut mentir, ni désavouer Christ, l'Isaac ressuscité, en qui elles sont toutes, oui et amen. Mais le prophète mentionne encore une promesse bien plus merveilleuse que celle du sable de la mer. Et il arrivera que, dans le lieu où il leur a été dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », il leur sera dit, Fils du Dieu vivant. Ce passage a trait aux nations, et non pas à Israël, comme l'Esprit de Dieu nous l'enseigne en Romains 9. N'est-il pas remarquable que, dans cet enseignement, nous n'aurions jamais découvert, dans ce verset, la pensée de Dieu au sujet des gentils? En Romains 9, versets 24 à 26, l'apôtre cite 2 passages d'Osée pour montrer que Dieu a appelé des vaisseaux de miséricorde, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Le premier de ces passages est pris en Osée 2, verset 23. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était point bien-aimée. Ces paroles se rapportent exclusivement à Israël. L'apôtre Pierre, s'adressant à des Juifs convertis, les emploie à leur sujet. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, verset 10. Pierre montre à ces chrétiens sortis du judaïsme que ce qui était promis pour l'avenir à leur nation, eux le possédaient maintenant, qu'ils avaient le droit de s'appeler le peuple de Dieu et avaient des relations avec Dieu fondées sur sa grâce gratuite. Le second passage de Romains 9 est tiré d'Osée 1, verset 10. C'est celui qui nous occupe. Il arrivera, dit l'apôtre, qu'au lieu où il leur a été dit « Vous n'êtes point mon peuple », là, ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Dans l'avenir, les fils d'Israël apprendront que Dieu s'est suscité à leur place un peuple nouveau, ayant un titre nouveau, « fils du Dieu vivant ». Ce nom me semble avoir une portée toute spéciale. Dans l'Ancien Testament, le nom du Dieu vivant, du Dieu d'Israël possédant la vie en lui-même, semble être en contraste avec les dieux sans vie, idoles des nations. Dans le Nouveau Testament, Christ est le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, verset 16, Romains 1, verset 4, déclarait-elle par la résurrection de mort. En vertu de cette résurrection et par la descente du Saint-Esprit, le chrétien possède la même relation avec Dieu que son Seigneur et Sauveur. Il est Fils de Dieu, du Dieu vivant. Telle me semble être la portée de ce passage. Il s'adresse aux nations dont nous faisons partie et proclame la nouvelle relation dans laquelle elles entreront avec Dieu par un Christ ressuscité. Sans doute le prophète ne va pas jusqu'au mystère de l'Église, inconnu de l'Ancien Testament, mais nous pouvons dire que ce mystère est caché ici dans ces mots « le Dieu vivant », titre connu de tous les prophètes, mais révélé ici pour le temps futur où, sur lui, le Seigneur bâtira son assemblée. Et les fils de Juda et les fils d'Israël se rassembleront et s'établiront un chef et monteront du pays, car la journée de Jisréel est grande. Verset 11. De la bénédiction des nations, le prophète passe au rassemblement futur de tout Israël. Juda, avec lequel Dieu patientait encore, devait être dispersé après les 10 tribus, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Si le but de la croix, de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés, a échoué quant à Israël, le temps viendra où ce dessein s'accomplira. Juda et Israël, ou les 10 tribus, s'établiront un seul chef. Ils reconnaîtront ensemble la seigneurie du Christ que Juda avait rejeté. Alors ses frères ennemis vivront unis avec leur chef, souverain sacrificateur et roi sur son trône, devenu désormais leur conducteur. Ils monteront du pays. Le sens de cette parole me paraît être qu'ils monteront de la terre de Canaan comme une moisson abondante, car, ajoute immédiatement le prophète, la journée de Jisréel est grande. Alors Jisréel, lieu du massacre et de la rétribution, verset 5, recevra sa vraie signification « Dieu sème ». Voir chapitre 2, verset 23. Il sème et la moisson lèvera, mais seulement après que le jugement du peuple aura été consommé. Dès que la journée de Jisréel est introduite par Dieu lui-même, elle ne peut être qu'en bénédiction. Où lui a semé, la moisson ne peut être qu'infiniment grande. Autrefois, sous Jéhu, l'homme avait semé et récolter la tempête. Mais quand Dieu sèmera, il récoltera un peuple bien uni, le fruit mûr de son œuvre, rassemblé sous un chef divin. Alors, on pourra dire, en effet, « La journée de Jisréel est grande. » Note 1. C'est du moins l'explication que je propose de ce passage qui a reçu plusieurs interprétations. Voir pour la même signification du mot monter, le verset 8 du chapitre 10. Et les hauts lieux d'Aven, le péché d'Israël, seront détruits. L'épine et la ronce monteront sur leurs autels. Et ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. S'établir un chef et monter ne se lit point, selon moi, dans ce passage. Fin de la note. Nous avons donc trouvé dans ce chapitre un résumé important du passé et de l'avenir d'Israël et de Juda. Toute la prophétie de l'Ancien Testament y est condensée en quelques mots. Les promesses de Dieu, le peuple sous la loi abandonnant l'Éternel, le jugement qui en est la conséquence, la rupture de toute relation entre Dieu et le peuple, la cessation de ses voies de miséricorde envers lui, l'alliance légale ayant été rompue par Israël, l'entrée des nations dans les bénédictions de la nouvelle alliance, comme fruit de la résurrection du Christ qu'Israël avait rejeté, mais ensuite la reprise des relations de Dieu avec Israël lorsque le Christ ressuscité devient chef de son peuple, le réunit en un après sa dispersion et fait lever une moisson abondante sur la terre renouvelée.